France Inter, 7h.
France Inter. Nicolas Demorand. Le 7-9.
Et nous sommes le mardi 3 septembre. Bonjour à tous. Bienvenue sur France Inter. Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, le gouvernement lance un Grenelle des violences conjugales. Alors que le terrible décompte se poursuit, 101 féminicides depuis le début de l'année. Il faut beaucoup de moyens, estiment les associations. Témoignage dès le début de ce journal et à 7h50, vos invités, Léa.
Deux invités, deux voix fortes à 7h50. Morgane Seliman, victime de violences conjugales et auteur du livre « Il m'a volé ma vie » et Luc Frémiot, ex-procureur de la République de Douai, l'un des plus grands spécialistes du sujet.
A tout à l'heure Léa. Les autres titres Agnès.
5 morts et une vingtaine de blessés aux Bahamas après le passage de l'ouragan Dorian qui devrait finalement épargner la Floride. Le bras de fer entre Boris Johnson et les députés britanniques sur le Brexit. Le psychodrame des municipales à Paris au sein de la République en marche. J'ai été très bon, j'ai frappé très fort, l'autosatisfaction de Gaël Monfils qualifié, c'est vrai, pour les quarts de finale de l'US Open.
Et donc, ce matin à 8h20, le grand entretien de la matinale, ce sera avec Christian Jacob, il préside le groupe Les Républicains à l'Assemblée Nationale, le standard est ouvert, vous le savez, 01 45 24 7000.
France Inter.
Ce sont les mêmes mots qui reviennent au fil des témoignages. La peur, la solitude, les insultes, les coups, la honte, l'amour aussi, et l'espoir insensé qu'un jour, tout va s'arranger. Cet engrenage, Linda, 42 ans, mère de 4 enfants, l'a raconté à Sophie Parmentier.
Ça a commencé tout doucement, l'éloignement de la famille, des amis, et quasi tout de suite, en fait, les violences lors de ma première grossesse. En fait, suite à une dispute, je suis sortie du logement et monsieur est venu me récupérer dans la rue en me tirant les cheveux. Et ensuite, il m'a fait tomber à terre. Ça a été le premier geste. Et ensuite, des insultes par rapport à cette grossesse. Tu vois, ça, c'est une enfant de... une fille de pute. Et ça, cette phrase, ça m'est restée et ça me reste encore, en fait. Et j'ai toujours peur de l'impact que ça peut avoir sur ma fille. Mais vous savez, avant tout, en fait, c'est... je suis restée parce que moi, j'aimais mon mari. Mais je me disais que lui aussi m'aimait, qu'il avait un problème, qu'il fallait qu'il se fasse aider. Souvent, je lui disais, si tu veux, je t'accompagne, on va t'aider. Mais il est encore très, très en colère après moi. Et vous savez, j'ai encore peur, en fait, à l'heure actuelle, de ce qu'il peut faire.
Linda vit aujourd'hui dans un hébergement d'urgence avec ses deux plus jeunes filles. Une chance car les moyens manquent cruellement pour mettre à l'abri ses femmes et leurs enfants. D'où ce Grenelle contre les violences conjugales. Une grande réunion cet après-midi à Matignon pour lancer 12 semaines de travail et mettre en place des outils qui fonctionnent. Thibault Lefèvre.
Le Premier ministre Édouard Philippe est à la barre. Il devrait formuler dès cet après-midi devant l'essentiel des membres de son gouvernement quelques propositions concrètes. L'obligation par exemple de porter en fonction de la gravité de la situation un bracelet électronique anti-rapprochement dès le dépôt de plainte. L'installation systématique de téléphones grave danger chez les victimes. Il permettrait une intervention rapide des forces de l'ordre en cas de récidive. Le ministère du Logement devrait augmenter le nombre d'hébergements d'urgence. Il y en a aujourd'hui 2500. Les associations de défense des droits des femmes en demande 2000 de plus. Les dysfonctionnements dans le recueil des plaintes seront aussi évoqués, avec sans doute des propositions pour améliorer la formation des policiers et des gendarmes. Et puis il y aura la question centrale de l'argent. Le projet de loi de finances doit être présenté à la fin du mois. La secrétaire d'État chargée de l'égalité femmes-hommes, Marlène Schiappa, a déjà débloqué un fonds spécial d'1 million d'euros pour les acteurs de terrain. Une goutte d'eau pour les associations qui estiment à 500 millions par an le coût d'une politique d'accompagnement efficace. C'est 5 fois plus que les financements actuels.
Des réunions vont se tenir à Paris et en région. La carte est disponible sur franceinter.fr ainsi que les témoignages en longueur de Linda et d'autres femmes victimes de violences. Journée spéciale sur l'antenne de France Inter avec notamment donc un téléphone sonne à 19h20 avec Marlène Schiappa qui répondra à vos questions et les conclusions de ce Grenelle seront rendues publiques le 25 novembre, date de la journée internationale contre les violences faites aux femmes. Et pendant ce temps, le terrible décompte continue. Le 100e féminicide Madrid depuis le début de l'année a eu lieu le week-end dernier. La police des polices a d'ailleurs ouvert une enquête sur le délai et les conditions d'intervention de la police de Cagnes-sur-Mer qui n'a pas réussi à sauver Salomé. La garde à vue du compagnon de la jeune fille a été prolongée de 24 heures. Il nie être l'auteur des violences. 101 avec la mort hier d'une vieille dame de 92 ans rouée de coups dans le Tarn. Son mari a été hospitalisé en psychiatrie. Les urgences en surchauffe depuis bientôt 6 mois et le geste hier de la ministre de la Santé qui a annoncé une première salve de mesures avec notamment une admission directe à l'hôpital pour les personnes âgées sans passer par les urgences et une vidéo assistance entre les SAMU et les EHPAD pour éviter un passage aux urgences lorsque cela n'est pas nécessaire. Nous y reviendrons plus en détail dans le journal de 7h30.
Il est 7h05, Agnès, le bilan du passage de l'ouragan Dorian aux Bahamas s'est alourdi.
Au moins 5 personnes sont mortes, une vingtaine ont été blessées, les maisons détruites se comptent par milliers et les appels à l'aide se multiplient sur l'île de Grand Bahama. Et si l'ouragan a été rétrogradé au niveau 4, il menace toujours la côte est des États-Unis où près d'1 million de personnes ont reçu l'ordre d'évacuer. Le point avec Grégory Phillips, correspondant de France Inter aux États-Unis.
Depuis plus de 24 heures, Dorian s'acharne sur l'archipel. Désormais, l'ouragan stagne au-dessus des Bahamas et les vents continuent à souffler à plus de 200 km/h. Ce sont donc d'énormes quantités d'eau qui s'abattent notamment sur l'île de Grand Bahama, la plus à l'ouest. Le ministre de l'Agriculture des Bahamas a filmé cette vidéo chez lui et l'a publiée sur les réseaux sociaux. Ça, c'est la fenêtre de ma cuisine. L'eau est montée à au moins 6 ou 7 mètres au-dessus du niveau de la mer. Plus à l'ouest, en Floride, les autorités ont ordonné des évacuations dans plusieurs comtés. Mais les toutes dernières projections météo semblent indiquer que l'ouragan ne frappera pas directement cet État américain. Il devrait se contenter de longer la côte. Hier soir, le gouverneur Ron DeSantis était donc prudemment optimiste sur CBS.
On n'est pas encore tiré d'affaire. Les gens doivent rester vigilants. Mais en même temps, nous avons ces prévisions qui nous disent qu'on devrait connaître un événement moins grave que ce qu'on redoutait il y a encore 4 jours. Bien sûr, il va y avoir beaucoup d'eau, des inondations, du vent et des dégâts, mais ce sera sans doute moins grave que si cet ouragan nous avait frappé directement.
Dorian n'est plus qu'à 170 km des côtes de Floride et devrait s'en approcher tard ce soir ou demain mercredi. Washington, Grégory Phillips, France Inter.
Un attentat hier soir à Kaboul dans le quartier des agences d'aide et des organisations internationales. Le bilan est de 16 morts et plus d'une centaine de blessés. Un attentat revendiqué par les talibans. Le bras de fer à Londres entre le Premier ministre et les députés. Boris Johnson n'entend pas revenir sur la date du 31 octobre pour acter la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne et menace d'organiser des élections anticipées si des frondeurs conservateurs votent en faveur du texte présenté par l'opposition pour interdire un Brexit sans accord. Nous serons en direct de Londres dans le journal de 8h. En France, ce sont les municipales qui donnent des sueurs froides à La République En Marche et notamment la situation à Paris à la veille de l'annonce de la décision de Cédric Villani. Cédric Villani affirme que son choix n'est pas un acte de défiance et ni Benjamin Griveaux ni Gilles Legendre ne souhaitent l'exclure du parti. Mais sans exclusion, Yael Gauz, toujours plus de confusion.
C'est écrit noir sur blanc à l'article 33 des statuts. Lorsqu'un adhérent est candidat à un poste pour lequel les instances ont investi un autre candidat, le bureau exécutif, peut-on lire, le répute exclu, en théorie, car personne ne souhaite aggraver encore la situation. Exclure Cédric Villani, ce serait en faire un martyr, redoute un cadre du mouvement. Même Benjamin Griveaux a mis son casque bleu et demande expressément à son parti de ne pas appliquer les statuts. Mais alors, comble du casse-tête, le parti doit-il s'auto-saisir malgré tout? Un douloureux cas d'école à gérer pour la présidente du bureau exécutif et porte-parole En Marche, Laetitia Avia.
Ce que je souhaite, c'est qu'on continue de travailler ensemble. Discutons avec lui, voyons comment, pourquoi, mais parlons-nous.
On peut donc aboutir à une double candidature, au moins temporaire?
Ah non, il n'y a qu'une candidature, et c'est la candidature de Benjamin Griveaux pour la mairie de Paris.
Et on en revient à la case départ, car laisser faire, c'est envoyer un signal trop laxiste dans les villes où d'autres rivalités perdurent pour savoir qui sera candidat. En se mettant hors système, explique un dirigeant, Villani ne fait qu'imiter le Macron de 2017. Cette grande tolérance s'explique aussi par la crainte de représailles à l'Assemblée. En cas d'exclusion, entre 5 et 10% de députés En Marche pourraient claquer la porte par solidarité avec leur collègue Cédric Villani.
Le réfugié afghan qui a tué un jeune homme samedi à Villeurbanne et blessé au couteau plusieurs autres personnes a été mis en examen hier soir pour assassinat et tentative d'assassinat et placé en détention provisoire. L'homme a partiellement reconnu les faits mais ses propos restent confus. Un drame qui pose la question du suivi médical des réfugiés. L'association qui le suivait lui avait proposé une aide psychiatrique qu'il avait refusée. Direction Mayotte à présent. Mayotte, à 8000 km de Paris, territoire de défi pour l'éducation nationale. 100 000 enfants scolarisés, c'est 1% des effectifs de France. Et tous les ans, 4 à 5 000 élèves supplémentaires doivent être accueillis. Il faudrait, en théorie, Béatrice Duguay, ouvrir plusieurs centaines de classes chaque année.
Mayotte n'est pas une terre élastique. Impossible de transformer toute l'île en établissement scolaire. Constat en forme d'évidence de Zalifa Hassani, la présidente de la Fédération de parents d'élèves FCPE de Mayotte.
En zone urbaine, ce n'est plus un collège par commune, ce n'est plus un collège par village. Ça va être plutôt bientôt, dans un an ou deux, un collège par quartier.
Et bientôt, il faudra donc aussi un lycée par quartier. À Mayotte, il naît une vingtaine d'enfants par jour, l'équivalent d'une classe. Vous comprenez donc mieux cette surpopulation scolaire. Et par ricochet aussi, le manque d'enseignants, surtout dans le secondaire, se désole Rivo Racoton-Dravello du SNUIPP Mayotte.
Dans le secondaire, 50% des enseignants sont des contractuels. 50%. Sachant que tout récemment, la semaine dernière, dans un collège dans la zone de la capitale, sur 95 enseignants, il n'y a que 5 titulaires.
Les contractuels sont de bonne volonté, mais formés trop vite, dit le syndicaliste. Et parfois, le souci est ailleurs.
Nous avons des collègues contractuels, des Espagnols, des Anglais, qui effectivement ont été recrutés alors que la maîtrise du français est un peu délicate, on va dire.
Malgré des efforts réels, l'éducation nationale manque de presque tout à Mayotte, sauf de bonne volonté et de dévouement.
Il est 7h11, Agnès, et un Français en quart de finale à l'US Open.
Il est le seul rescapé tricolore. Gaël Monfils a battu l'Espagnol Pablo Andújar en 3 petits sets, 6-1, 6-2, 6-2. Fabrice Abgarl est à New York pour Inter.
Vite fait, bien fait, net et sans bavure, Gaël Monfils était en démonstration sur le court. Il n'a laissé que 5 jeux à Pablo Andújar, inexistant, impuissant et désarmé. L'Espagnol, plongé dans un profond désarroi, a vécu un véritable calvaire durant 1h26. Même si Andújar est l'un de ses meilleurs amis, Gaël Monfils n'a pas fait de sentiment. Le Parisien, sans pitié, a dominé la rencontre de bout en bout, sans forcer, sans trembler, sans fausse note. Il a rendu une copie parfaite au terme de ce 8e de finale, devenu un match d'entraînement au cours duquel Gaël Monfils, en totale maîtrise, a répété ses gammes face à un Pablo Andújar 70e mondial, réduit au rôle de faire-valoir. L'Espagnol, pris de vitesse, a été incapable de suivre le rythme de Monfils, beaucoup trop véloce, beaucoup trop puissant pour le pauvre Espagnol, qui en tout et pour tout n'a réussi que 6 coups gagnants contre 34 à Gaël Monfils.
C'était bien, un bon match, bien mené du début à la fin, j'avais un bon plan de jeu, fallait être sérieux, bien le faire. Il n'y a pas de match facile, il n'y a pas d'adversaire à la légère, donc je suis très content de ma performance aujourd'hui.
Mais pour Gaël Monfils, en revanche, la marche sera beaucoup plus haute en quart de finale face à l'Italien Matteo Berrettini, 25e mondial, un gaillard d'1m96 pour 90 kilos que le Parisien n'a jamais rencontré.
Une qualification également de Rafael Nadal pour les quarts de finale, mais l'Espagnol a perdu un set face à Marin Cilic. Et puis c'était à minuit la fin du mercato de foot avec deux ultimes transferts. L'Argentin Mauro Icardi de l'Inter Milan rejoint le PSG, tout comme Keylor Navas qui quitte le Real Madrid pour le club parisien.
Merci Agnès Soubiran.